Bonjour Sam,
Bonjour.
nous sommes là pour discuter de ton premier roman, Chevaucheur d'ouragan, qui est sorti aux éditions Mnemos. Ma première question sera comment s'est passée la rencontre avec cet éditeur?
C'est une rencontre qui s'est faite par personne interposée au départ. Donc ça va me donner l'occasion, il est déjà remercié dans mes remerciements, mais d'en repasser une petite couche. La première rencontre, ça a été une rencontre avec Xavier Momejean, dans le cadre d'une vraiment coïncidence, puisque j'ai assisté à la dédicace de son roman Lilliputia, et quand on a fait la dédicace, il m'a demandé ce que je faisais et ce qu'étaient mes hobbies. Et je lui ai dit que mes hobbies étaient d'écrire des romans de fantasy. Et il m'a tout de suite dit qu'il était très intéressé et qu'il m'a proposé de lui envoyer ce que j'écrivais. Et donc on est resté en contact, il m'a donné beaucoup de conseils et il s'est avéré que quand le manuscrit de Chevaucheur d'Ouragan a été terminé, il a eu la gentillesse en fait de me recommander auprès de Mnemos. C'est lui d'ailleurs qui m'a conseillé d'envoyer ce manuscrit à Mnemos. Et voilà comment la rencontre avec Charlotte s'est faite, Charlotte Wolper, s'est faite par l'intermédiaire de Xavier Momejean.
L'idée de Chevaucheur d'ouragan est née comment? Parce que il y a beaucoup de références à l'intérieur de ce roman. Comment la profusion est née et comment est-ce qu'il a fallu peut-être faire des coupes? Il y avait peut-être plus de références au départ ou pas?
Alors, Chevaucheur d'Ouragan est, enfin disons, l'univers dans lequel se passe Chevaucheur d'Ouragan est un univers qui entre guillemets en termes de création est assez ancien. C'est un univers sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Le projet de ce roman est lui-même assez ancien. Comment sont venues les premières idées sur Chevaucheur d'Ouragan, c'est difficile à dire, si ce n'est que j'ai décidé un jour que j'allais essayer d'écrire de la fiction et que il fallait que je crée un univers qui avait pas déjà été fait, qui avait pas déjà été vu. Et sachant que à la base j'étais très inspiré par des histoires de corsaires, donc voilà, c'est là que tout a commencé et que il fallait que mes bateaux de corsaires soient un peu différents de ce qu'on fait d'habitude, donc ils volaient et ensuite il me fallait une opposition. Il y a eu des dragons et ensuite j'avais besoin d'un troisième pôle dans cet univers. Il y a eu des Minotaures, et puis l'univers s'est lui-même créé au fur et à mesure. Je l'ai d'ailleurs entre guillemets pas créé seul, parce que j'ai eu un conseiller technique en fait, un ami très proche qui m'a suivi pendant toute la période où je construisais cet univers et auprès de qui je testais toutes les idées en fait, donc qui triait le bon grain de livret, qui rejetait les mauvaises et qui me proposait de garder les bonnes.
Ça a pris combien de temps, véritablement sur l'écriture, du coup?
Alors, sur l'écriture, c'est difficile à dire parce qu'elle s'est faite en plusieurs fois. J'aurais tendance à dire que le roman a été écrit en plusieurs phases, mais qui font au total pas un an. Sachant que c'est un premier roman, donc j'ai appris énormément et j'ai écrit des nouvelles au milieu et d'ailleurs, pour être publié chez Mnemos, c'est un roman qui a été significativement réduit dans sa taille, qu'il était 20% plus gros avant. Et ça a été pour moi un super exercice, parce que devoir écrire à l'économie, surtout pour un jeune auteur, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais en tous les cas pour moi c'est certain, ça a été un apprentissage énorme, juste sur le style, hein, je parle. C'est-à-dire que quand chaque mot compte, on élimine toutes les scories, enfin, tout ce qui n'est pas absolument nécessaire, il faut l'enlever. Donc c'est un apprentissage énorme.
Le découpage en cinq
Ouais.
parties, ça s'est fait c'était prévu comme ça ou ça a été retravaillé avec l'éditeur,
Non, 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 ça c'est initial. D'ailleurs, ça a été entre guillemets un sujet avec l'éditeur. Parce qu'il a été question, en fait, quand j'ai présenté le manuscrit pour la première fois et que Charlotte l'a trouvé un peu volumineux, il a été question de scinder le manuscrit en deux. Et assez naïvement, pour un jeune auteur qui s'adressait à un éditeur potentiel, j'ai répondu non à Charlotte, que c'était pas possible, justement parce que cette histoire était écrite en cinq actes. Et que ça marchait pas de découper cinq actes en deux pour faire deux histoires qui se tiennent. C'est-à-dire que j'avais un peu travaillé les théories de la narration, donc on va dire que classiquement une histoire c'est en 3 ou en 5 actes, ça a un début, un milieu et une fin. Et faire 2-3 actes à partir de 5 actes, c'était compliqué pour que ça se tienne. Et donc, bon, un peu naïvement au départ, j'ai répondu non, et c'est ce qui a fait que le roman est resté en 5 actes et que, in fine, en fait, j'ai travaillé à sa réduction globale en éliminant tout ce qui n'était pas nécessaire.
Pour ceux qui n'auraient pas lu Chevaucheur d'ouragan, comment est-ce que tu le présentes ?
Il s'agit d'une fantaisie épique, très teintée de piraterie et de corsaire, puisque il y a deux trames dans la narration, et une de ces trames suit un équipage de corsaires. Donc c'est une fantasy épique dans un univers très high fantasy, et c'est une fantasy qui se veut assez décomplexée. Alors ça, je dis ça en toute humilité, mais c'est, disons, dans le cahier des charges de ce roman, il y avait un certain nombre de choses, entre autres de ne pas avoir comme personnage principal un ado qui découvre ses pouvoirs, de ne pas avoir un univers dans lequel la magie est comptée, c'est-à-dire interdite comme dans Le Seigneur des Anneaux, ou très faible, ou en train de renaître, ou voilà, c'est-à-dire d'avoir un univers dans lequel l'auteur au minimum, et j'espère le lecteur aussi, puisse se lâcher complètement sur ce dont sont capables les personnages ou les entités de cet univers.
Le choix des personnages, justement, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est fait de quelle façon ? Est-ce que tu as dressé un portrait psychologique de chacun, parce que ils ont tous un caractère très très bien trempé ? Il y a des descriptions physiques qui font qu'ils ont des gueules pas possibles, surtout sur le navire. Est-ce que tu as fait des croquis toi-même de ce que représentaient les personnages ?
Alors, j'ai un très grand regret, en fait, c'est de ne pas savoir dessiner. Parce que j'adorerais, en fait, pouvoir jeter sur le papier les images que j'ai non seulement de mes personnages, mais de cet univers, de ces décors ou des choses comme ça, enfin, de manière générale. Mais non, je suis un très mauvais dessinateur, donc rien de tout ça n'a été jeté sur le papier. Alors les personnages, enfin, il y a eu beaucoup de travail sur les personnages qui s'est fait en deux étapes, en fait. La première étape, c'est que il y a un thème général dans le roman, un peu posé par la citation d'Abel, qui est un des personnages importants du roman en ouverture, qui est une problématique sur liberté par opposition à fatalité. Et donc chacun des personnages, enfin, mon souhait était que chacun des personnages ait une trajectoire au sein de cette problématique-là. Et donc après, j'ai décliné les personnages en fonction de la trajectoire que j'envisageais de leur faire suivre dans le roman. Donc ils partaient sur une position particulière, ils arriveraient dans une position très différente et il y aurait un chemin entre les deux. Donc ça, c'est pour leur psychologie. Et ensuite, j'avais envie de personnages qui soient visuellement typés et sympas. Donc j'ai beaucoup travaillé sur leur caractérisation. Pour ce qui concerne l'équipage de la Vire, en fait, il est venu dans un deuxième temps, l'équipage de la Vire, parce qu'au départ, justement, cet navire était pas assez peuplé. Et donc, j'ai décidé de le peupler de tout un tas de personnages qui, d'ailleurs, ont tous une histoire qui est écrite, enfin, en notes tout du moins, et qui n'est que très peu utilisée dans le roman pour la plupart d'entre eux. Il y en a au moins deux d'entre eux pour lesquels j'ai déjà écrit des nouvelles qui racontent une partie de l'histoire de ces personnages et de comment ils sont arrivés à bord de la Vire de Tristan Vortigern. Et à terme, voilà, l'objectif est d'écrire les histoires respectives de chacun des personnages qui sont membres de cet équipage.
Pour le choix des destins des différents protagonistes, jusqu'où est-ce que tu voulais aller ? Parce qu'ils sont entre écorchés vifs et prisonniers de leur destinée, tout en étant presque fiers de ce qu'ils sont.
Alors, oui. Je réponds oui à toutes tes questions. ils sont tous plus ou moins écorchés vifs, parce que des personnages qui sont équilibrés sont dans la plupart des cas moins intéressants. Donc il faut des personnages qui ont des failles, et c'est d'autant plus vrai si l'objectif est de leur trouver une trajectoire vis-à-vis d'une problématique morale ou thématique. Donc, ils sont définitivement tous écorchés vifs, et c'était volontaire. Après, sur leur trajectoire et sur la façon dont ça se termine, il y en a sur lesquels, effectivement, j'ai pris un malin plaisir pour le faire. Il y en a même d'ailleurs où ce qui était écrit au départ, c'était la façon dont ils allaient finir. Et donc j'ai réfléchi à comment, par où ça pouvait commencer. Si j'en cite un, par exemple, la trajectoire d'Abel, là où je savais que je voulais aller, c'était comment ça se finit pour lui à la fin de ce roman. Et donc j'ai réfléchi après à ce qu'il pouvait être avant.
Justement, à propos d'Abel, l'idée de son don, qui est en même temps moitié une malédiction, qu'on découvre un petit peu au fur et à mesure du roman. Cette idée-là, alors je sais pas si le révéler ça fait spoiler ou pas, mais comment ça t'est venu ça? Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve sous des formes différentes, mais la façon dont tu l'as utilisé, je trouve que ça renouvelle un petit peu le style.
Alors pour que ce soit plus clair pour les gens qui nous entendent et qui n'ont pas éventuellement pas lu le roman, je pense qu'il vaut mieux dire de quoi on parle. Oui. Donc en fait, Abel est affligé ou doté d'un talent particulier qui le protège des intentions de mort violente. Mais il y a une contrepartie qui est que lui-même n'a pas le droit de prendre les armes sous peine d'un destin qui sera au moins aussi tragique que ce qui arrive à ceux qui en voudraient à sa peau. Alors là, il y a deux choses à dire sur la façon dont entre guillemets ce don a été construit. Il a été construit d'abord par rapport à la trajectoire que je souhaitais pour ce personnage, de manière à ce qu'il puisse à la fois être un don qui est vraiment important pour le personnage dans cet univers, et aussi être considéré par lui. Parce que c'est vraiment lui exclusivement qui considère ce don comme une malédiction, et que donc ça crée un déséquilibre assez terrible chez le personnage au départ. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de manière générale, dans cet univers, donc Abel n'est pas le seul à être doté d'un don. Il y a un certain nombre de gens qui le sont, et ces dons sont toujours à double tranchant. C'est-à-dire que il y a systématiquement une contrepartie assez douloureuse à payer pour bénéficier de ce genre de pouvoir.
Au-delà des personnages masculins qui sont très très présents, il y en a des féminins aussi, notamment la dryade. De quoi est-ce que tu t'es inspiré pour elle ?
Alors, la dryade, je pense qu'il y a une inspiration lointaine et inconsciente, enfin inconsciente, semi-consciente, qui me vient de la Malorée et la Belgariade. Pas dans sa psychologie, mais sur le principe de la dryade, je pense qu'il y a une référence à la Malorée. Maintenant, la dryade, il y avait deux choses importantes. Elle s'inscrivait toujours pareil hein, dans le thème liberté-fatalité face à un autre personnage qu'on croise dans le roman. Et j'avais très envie d'explorer vis-à-vis de cet autre personnage qui est très important pour moi, qui est Drago Ilianar, donc qui est un méchant. Auquel je tiens beaucoup, d'explorer une problématique liée, enfin, le syndrome de Stockholm. Donc, elle a été en partie construite sur cette idée-là, et ensuite sur comment est-ce que elle, avec une culture très particulière liée à l'endroit dans lequel elle vit, elle pouvait assumer des responsabilités, et comment elle gérait sa liberté par rapport à ça. Donc c'est comme ça que ce personnage-là s'est construit.
À propos de Drago, c'était obligatoire qu'il soit aussi méchant et surtout aussi malsain, sadique, vicieux et manipulateur.
Alors, je dois confesser une très très grande passion pour les méchants. Le personnage que je préfère dans une histoire, c'est le méchant. Et à mon sens, les très très grandes réussites sont des histoires où les méchants, enfin où les vilains, où, enfin tout ce qu'on veut, sont à la fois odieusement méchants et irrésistiblement attachants. Alors du coup c'était entre guillemets mon ambition sur ce personnage. Je ne saurais pas dire si ça fonctionne, c'est au lecteur de le dire. Mais je vais citer deux exemples de méchants qui sont d'absolues références pour moi. Le personnage du sorcier dans Tigane de Guy Gavriel Kay, qui est absolument fabuleux. Et si on parle de cinéma, c'est le personnage de Daniel Day-Lewis dans Gangs of New York, qui est un odieux salopard, mais que moi je trouve affolement attachant. Donc pour ce qui concerne Drago Ilianar, le méchant de Chevaucheur d'Ouragan, oui, je souhaitais qu'il soit horrible, mais vraiment horrible, et que pour autant, il soit capable par moment de... soit d'une certaine humanité, mais je crois pas que c'est comme ça qu'on peut le définir, parce qu'il est tout sauf humain, mais disons d'un certain lyrisme, d'une certaine poésie qui le rende... très différents, voilà, et qui le rendent assez difficile à cerner, y compris pour les autres personnages du roman.
Au niveau de la création de l'univers, la musique est aussi très très importante. D'ailleurs, sur le site chevaucheurdouragan.com, on peut écouter une bande-son.
Oui.
Comment est-ce que ça se passe, ton travail justement en musique ?
Alors, donc, je suis un énorme consommateur de musique. Quand j'écris, c'est-à-dire je ne peux pas écrire sans musique. J'ai besoin d'être plongé dans l'ambiance dans laquelle j'essaye de construire une histoire. Que je ne peux pas écrire non plus sur n'importe quelle musique. Il y a un travail entre guillemets préparatoire à l'écriture qui est de trouver des musiques qui vont fonctionner et qui vont m'inspirer Alors, pour les différents, enfin, dans l'écriture de Chevaucheur d'Ouragan, en fait, chaque acte du roman se passe dans un environnement relativement différent, culturellement parlant, en termes de paysage, et donc je cherchais systématiquement des ambiances qui soient, qui soient assez différentes, et donc je cherchais des ambiances sonores qui correspondent, et du coup, c'est dans les musiques de films, parce que je suis un très très gros cinéphage et donc c'est dans les musiques de films que je piochais le plus abondamment, et donc il était assez naturel une fois que moi j'avais fait ce travail d'essayer de trouver un moyen d'offrir la possibilité au lecteur de profiter de ces ambiances qui m'avaient moi en partie inspiré. Et donc jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était assez compliqué de faire ça en fait, parce que j'ai pas les droits sur ces musiques évidemment. Mais depuis qu'existent les radios en ligne, et en particulier Deezer, Last.fm et ainsi de suite, et ben il y a la possibilité en fait de mettre en ligne des playlists, et donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Je crois pas que ça a été beaucoup fait avant que je le fasse pour Chevaucheur d'Ouragan. Ce qui en fait m'étonne un peu parce que c'est vrai, in fine c'est assez simple à faire. Alors c'est un travail assez lourd et assez long pour l'auteur, surtout si c'est pas un travail qu'il a fait lui-même. Moi je c'était un peu plus facile pour moi parce que de toute façon je le faisais pour écrire. Donc voilà en fait la façon dont la musique intervient dans mon travail d'écriture et la raison pour laquelle effectivement, j'ai essayé de mettre ça à disposition des lecteurs le plus simplement possible.
Tu nous disais qu'il y avait différents endroits qui étaient créés dans le roman. Ça se retrouve notamment au niveau des différentes parties au départ. Et tu as aussi différentes zones temporelles puisque tu insères régulièrement des flashbacks. Pourquoi un flashback et pas une histoire linéaire en fait, linéaire. Pourquoi pas avoir respecté un ordre chronologique ?
Alors, je dirais qu'il y a deux raisons à ça. La première est un parti pris, donc au même titre que je disais tout à l'heure que voilà, il y avait un. Je m'étais entre guillemets imposé un cahier des charges quand j'avais commencé à écrire ce roman sur les choses que moi j'aimais ou que j'aimais moins et donc ce que j'avais envie de mettre dans ce roman. Il y avait de ma part une volonté d'aller piocher en fait dans des procédés narratifs qui sont pas forcément littéraires, mais qui sont éventuellement plus du domaine de la bande dessinée ou du domaine du cinéma. C'est-à-dire de faire quelque chose qui soit. Enfin, j'ai souvent remarqué que disons, la littérature imaginaire en particulier, puisqu'on parle de celle-là, en fait, avait un certain complexe vis-à-vis des médias de l'image, un complexe d'infériorité. Parce qu'elle se sentait bien moins habile, ou disons qu'elle mettait beaucoup plus de temps et que c'était beaucoup plus difficile pour elle de générer du visuel qu'un jeu vidéo, un film ou une bande dessinée, où effectivement le lecteur ou l'auditeur ou le spectateur en fait récupère une image d'un seul coup. Et donc je trouvais intéressant d'essayer de prendre le contre-pied de ça et de dire en fait si on puise dans un certain nombre de techniques narratives qu'utilise le cinéma, la bande dessinée, les jeux vidéo ou les séries télé, on peut peut-être réussir à faire des choses qui soient intéressantes et qui au minimum, enfin, qui pourront peut-être pas concurrencer ces médias-là, mais qui au minimum apporteront quelque chose au travail d'écriture pour le lecteur. Donc ça c'était une volonté. Donc du coup, il y a un certain nombre de procédés, disons de techniques narratives que j'ai cherché à transposer en fait le plus possible du cinéma vers. Alors, je suis pas le premier à faire des flashbacks, mais en tous les cas, ça m'intéressait. Le flashback est une technique ultra courante au cinéma, et ça m'intéressait en fait de l'utiliser dans ce que j'essayais d'écrire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le flashback a quand même un intérêt très important en fait en termes de narration. C'est que souvent ça permet de distiller de l'information d'une manière beaucoup plus efficace que si la trame de l'histoire est linéaire. C'est-à-dire que ça pose au lecteur un effet de suspense, alors pas de suspense violent, mais dans une première scène, en fait, on pose un certain nombre d'éléments que le lecteur ne comprend pas forcément tous, et puis dans un flashback, en fait, il récupère les clés de ce qu'il n'a pas forcément compris, mais qui l'a du coup un peu intrigué. Sur une scène précédente, et donc ça permet d'aller très très vite en fait et de faire des raccourcis que le lecteur n'apprécierait pas forcément dans une narration linéaire, parce que les raccourcis tourneraient à l'ellipse et qu'il trouverait peut-être qu'on lui en enlève trop vite, alors qu'en fait dans une narration en flashback, du coup il est lui-même avide qu'on fasse ces raccourcis, parce que il a été intrigué et il a très vite envie d'avoir les éléments nécessaires à la compréhension de ce qui l'a intrigué dans un chapitre précédent, par exemple. Donc, en fait, c'est à la fois un procédé narratif très, très efficace, j'ai trouvé, et quelque chose qui me permet d'utiliser des techniques qui rappellent le cinéma, la BD, ainsi de suite.
Le choix de différents personnages principaux, puisqu'on se retrouve à suivre des destins qui vont se croiser, bien évidemment, et ils sont tous importants. Il n'y a pas un narrateur ou un leader, et ça se retrouve donc au début sur les différentes parties du roman, et ça se retrouve aussi sur la fin, puisque on en suit plusieurs partir pas dans des chemins différents, mais faire leur petit truc. C'est plaisant, ça, d'avoir plein de pistes à explorer en parallèle.
Alors, en tant qu'auteur, le truc le plus extraordinaire qui soit, c'est les personnages. C'est-à-dire que, et qui d'ailleurs échappe à l'auteur au bout d'un moment. C'est-à-dire que c'est pas, il se passe des choses étranges avec un personnage. C'est-à-dire que, par moment, on a prévu de lui faire faire des trucs et puis tout d'un coup, ça diverge. Il a presque naturellement lui-même envie d'aller ailleurs et l'auteur se fait surprendre à bien des égards, et ça c'est, je pense, c'est un des caractères les plus jouissifs de cette activité. Donc moi, les personnages, c'est indéniablement je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est l'ingénierie dans le travail d'écriture qui me fascine le plus. Donc oui, du coup, moi j'ai une tendance à adorer créer des personnages qui visuellement et psychologiquement soit intéressant. Alors, un premier degré, un deuxième degré ou un troisième degré, c'est-à-dire que tous les personnages ne sont pas travaillés de la même façon. Je dirais que dans ce roman-là, en fait, il y a trois niveaux de personnages. Alors, il y en a même quatre. Déjà, le roman est écrit en fait sur deux trames narratives qui, en réalité, suivent deux jeux de personnages. Donc, deux personnages entre guillemets très importants qui sont leaders dans leur, leaders dans leur destinée, que sont Tristan Vortigern et Drago Ilianar, et qui entre guillemets s'opposent sans réellement le savoir. Et systématiquement, à côté de chacun de ces deux personnages-là, en fait, il y a un autre personnage qui est un personnage qui les regarde, qui est bien en deçà d'eux, mais qui est le personnage qui m'intéresse presque le plus, moi. Donc, qui sont respectivement Abel pour Tristan Vortigern et Shindra pour Drago. Donc, ça, c'est les deux premiers niveaux de personnages qui sont très très développés. Ensuite, il y a toute une galerie de personnages secondaires que moi je prends un plaisir fou à créer, et qui sont, je pense, ceux que vous évoquiez tout à l'heure, en disant qu'ils se croisent et qu'on suit leur point de vue et leur trajectoire, en particulier à la fin du roman. Et donc voilà, moi j'adore créer ces personnages. Enfin, si je dois en citer un ou deux, il y a un personnage de entre guillemets templier machiste, voilà, que j'ai adoré créer. Il est odieux, mais voilà, j'ai adoré ce personnage. Il y a un minotaure poète que j'adore aussi. Enfin voilà, il y en a tout un tas. Et puis après, il y a des personnages alors qui sont développés qu'au premier degré. Qui ont vocation à attirer l'œil pour un détail de leur personnalité ou pour leur look. C'est le cas de beaucoup des personnages qui sont membres de l'équipage du Souffle de l'âme, pour lesquels moi, derrière, j'ai en réserve énormément de choses, mais où il n'y avait pas l'espace, sur ce roman qui est déjà très dense, de les développer plus abondamment.
Pour les retrouver, tous ces personnages, ce sera un petit peu de temps en temps sur Internet sous forme de nouvelles, ou est-ce que ça pourra être un roman complet sur l'un d'eux, ou un recueil de nouvelles complet sur tous ces personnages autour du monde qui a été créé pour Chevaucheur d'Ouragan? C'est peut-être trop tôt pour en parler.
Non, c'est pas trop tôt pour en parler. Donc il y a... Les membres de l'équipage du Souffle de l'âme, donc il y a déjà deux nouvelles qui ont été écrites sur certains de ces personnages, en particulier sur le cheikh Razir et ses Mudaijin, et sur un autre personnage que je préfère pas évoquer tant que la nouvelle est pas diffusée, pour pas faire de spoiler. Mais donc ces deux nouvelles là elles existent, elles ont vocation, je pense que je les diffuserai sur internet, en fait, histoire de créer un corpus de texte autour de cet univers auquel moi je suis assez attaché, et où j'ai effectivement un certain nombre de choses à explorer encore. Il y a un personnage du roman qui sera un personnage secondaire du roman, donc un de ces personnages qui n'est développé dans le roman qu'au premier plan, qui sera exploré prochainement dans le cadre d'une nouvelle que je vais écrire, parce que j'ai été très aimablement, et j'en suis très honoré, invité sur l'anthologie des Imaginales pour le prochain festival d'Épinal. Donc il y aura une nouvelle qui justement explorera la personnalité et l'histoire d'un des personnages que l'on croise dans le roman, mais qui lui est aujourd'hui très très peu développé. Voilà, pour répondre à la question, il y a un certain nombre de nouvelles qui sont déjà écrites, il y en a d'autres que j'écrirai, parce qu'il y en a plein sur lesquels j'ai la matière, et d'ailleurs le synopsis des nouvelles est déjà établi. La plupart de ces nouvelles seront diffusées sur Internet, sur le site du roman, et puis il y a au moins une nouvelle qui sera publiée sur papier prochainement, et advienne que pourra, il n'est pas impossible qu'il y ait une suite à ce roman. Enfin, du moins, il y a matière.
C'est sûr. Un mot sur la couverture.
Par Sébastien Vermès, qui est un très vieil ami, mais qui est, c'est pas la première fois qu'il sévit dans le domaine de l'illustration, puisqu'en fait il avait travaillé avec Feu, la maison d'édition Oxymore, et qui est quelque, enfin bon, il était très gothique dans les illustrations qu'il faisait jusqu'à maintenant. Et alors pour la petite histoire, en fait, Sébastien, il a un tableau dont je suis un fan absolu qui s'appelle Déméter, et qui à chaque fois que je le voyais me faisait penser au souffle de l'âme. Donc c'est assez naturellement en fait que j'ai proposé à Mnemos que Sébastien vienne intervenir sur la couverture de ce roman. Et donc Charlotte et Mnemos ont été très sympas, puisqu'ils ont, ils ont accepté de travailler avec Sébastien, avec qui ils n'avaient jamais travaillé. Et donc je crois que c'est quelque chose d'assez important et parfois d'assez dangereux pour un auteur, enfin disons d'assez risqué. Mais moi j'ai la chance d'être infiniment comblé par la couverture de ce roman, qui est exactement ce que je rêvais, ou la façon dont j'imaginais le souffle de l'âme et l'ambiance que j'aurais aimé faire passer pour un lecteur qui ne l'a pas encore ouvert.
Un mot particulier à ajouter à propos
Alors,
de l'ouvrage?
Juste un mot à ajouter à propos de l'illustration et de Sébastien, parce qu'il y a une, en fait, alors qui sort un petit peu tardivement, mais c'est pas grave, elle fera un rebond après la sortie du roman. C'est un scoop, mais il y a une bande annonce en fait du roman qui va sortir, sur lequel Sébastien m'a fait l'honneur de rajouter encore un certain nombre d'illustrations, et qui sont, j'ose le dire, absolument superbes. Donc voilà, c'est une question de jours, je pense, avant que cette bande-annonce soit disponible. Mais vous verrez, ça met en illustration encore un certain nombre d'éléments du roman qui sont vraiment super.
Ce sera visible
Bien,
sur le
bien
site
sûr, bien sûr.
chevaucheurdouragan.com.
Et ce sera à partager massivement si c'est apprécié.
Pour terminer nos interviews, on a une question qui est celle-ci. Si on te donnait le choix entre la vie éternelle et le don d'ubiquité, tu prendrais quoi ?
Définitivement, je prendrais le don d'ubiquité, parce que j'ai pas le temps de lire tous les romans que je veux lire, sans doute pas le temps d'écrire tous les romans que je veux écrire, donc si j'étais deux, ça irait deux fois plus vite. Et la vie éternelle, je crois que ça m'intéresse pas tellement.
Pour te retrouver, donc tu seras en dédicace samedi à la librairie L'Imaginaute à Tours, mais tu dois avoir plein d'autres dates de prévues.
Je sais pas. Les prochaines dates de dédicace, c'est à la librairie de Paris, place de Clichy, à Paris, donc le 16 septembre, donc de 18 à 20 heures. Ensuite, il y aura une dédicace à Tours, dont je suis originaire, c'est pour ça qu'il y a une dédicace à Tours, qui sera le 18 septembre à la librairie Imaginaute, de 14 à 19 heures, si je ne dis pas de bêtises. Il y aura une dédicace aussi à Grenoble, dans le cadre du Festival Fantastique et Légendes, qui se tient dans une petite commune à côté de Grenoble, dont je ne vais pas me souvenir le nom. Mais cette dédicace aura lieu donc pendant ce festival, qui a lieu le 2 et le 3 octobre. Et il y a au moins une autre dédicace de prévue à Toulouse, qui sera conjointe avec Sébastien Bermès, qui est l'illustrateur, puisqu'il est toulousain, et qui aura lieu à la fameuse librairie Album de Toulouse. Voilà pour l'instant le programme.
Merci beaucoup.